Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Say en votre compagnie en ce vendredi 13 janvier pour vous présenter le National sur les ondes de Canal M. Retour dans le temps, le 11 janvier, l'émission « C'est bon pour la santé ». Nous avons tous besoin d'activités de loisirs qui répondent à nos attentes. Eh bien, Marianne Paquette en parle avec le directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, Marc Saint-Onge.
On se dirige du côté de Marc Saint-Onge, il est directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Bonjour Marc Saint-Onge.
Bonjour Madame Paquette.
Vous êtes à Trois-Rivières, c'est bien ça?
Le bureau est à Trois-Rivières, oui. Mais la QLPH couvre l'ensemble du Québec avec des représentants dans chacune des régions du Québec.
On est ici ensemble, Marc, pour parler de loisirs pour les personnes en situation de handicap. Des loisirs qui se veulent de qualité et ça doit répondre à certains critères pour qu'un loisir soit de qualité pour les personnes en situation de handicap.
Oui, en fait, vous savez, si on s'intéresse aux critères de qualité, ce sont les mêmes que pour tout le monde.
Mm-hmm.
Comme tout le monde, je suis différent. Donc, chacun d'entre nous avons des besoins bien spécifiques. On peut avoir des besoins plus particuliers d'ordre psychologique pour se détendre, par exemple. Mm-hmm. Je fais une activité de loisir et ce que je souhaite, c'est pouvoir vivre, retrouver ma bonne humeur parce que j'ai eu un moment plus de tension. Donc, il y a des attentes. Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que le loisir est significatif dans ma vie et a une contribution très positive? C'est que je puisse le choisir librement. Donc, déjà, en choisissant librement, je mets en valeur ma capacité à prendre des décisions. Je mets en valeur mes attentes, mes priorités. Vous savez, les critères de qualité, c'est un monde assez complexe en même temps en termes de motivation psychologique, mais aussi en termes de physique. J'ai besoin de faire de l'activité physique parce que je veux retrouver ma forme, surtout après le temps des fêtes.
Oui, ça, c'est vrai pour tout le monde.
Oui.
C'est intéressant, Marc Saint-Onge, parce que vous parlez de choisir, d'avoir ce loisir, hein, on parle de ça aujourd'hui, de choisir. Pour choisir, il faut qu'il y ait un choix. Ça ressemble à quoi l'offre en loisir au Québec pour les personnes en situation de handicap?
Vous savez, quand on parle de personnes en situation de handicap, le spectre de clientèle, si on peut l'appeler comme ça, est quand même très vaste.
Oui.
On a autant des personnes qui ont une déficience physique, intellectuelle, tu peux avoir un autisme, tu peux être déficit visuel. Alors, le spectre est très large. Quelle est l'offre? Si on se trouve en milieu urbain plus fortement densifié, tel que Montréal, par exemple, les choix sont beaucoup plus grands que lorsqu'on se retrouve en région, par exemple, lorsqu'on est en Gaspésie et on a très peu d'accès à des transports adaptés. Alors, l'offre, elle est en fonction de chacune des régions. Comment chacune des régions se structure par les organismes communautaires, par les associations, les municipalités, c'est varié. On peut s'intéresser aussi à qu'est-ce qui fait contrainte ou ce que je préfère, quels sont les facilitateurs à l'activité. Donc, dans l'offre, l'accès à des lieux physiques, par exemple, c'est un facilitateur dans l'offre. Donc, si j'ai accès à la piscine intérieure parce qu'elle est construite selon des principes d'accessibilité universelle, ben, j'y aurai accès beaucoup plus que si cette piscine-là n'a pas de lève-personne, par exemple.
Oui.
Vous savez, donc c'est un peu... Ça, c'est un des facteurs. L'autre élément qui devient intéressant dans l'accessibilité, c'est la capacité d'accueil. Les gens, est-ce qu'ils conçoivent la différence comme étant problématique, comme étant des objets de crainte, hein, jusque-là? Alors, vous savez, l'accessibilité, elle se détermine en fonction de nombreux paramètres. Et je vous dirais, un qui est souvent négligé, c'est celui de la personne elle-même.
Oui.
Moi, c'est trop beau pour moi, je n'irai pas. J'ai pas les compétences pour y aller. Vous voyez donc, l'accessibilité peut se définir par l'environnement physique, l'environnement social, mais aussi tous les facteurs personnels.
Mais encore, faut-il semer en cette personne l'idée qu'il a la capacité et les ressources de le faire? Et je pense souvent à mon bon ami Luc Fortin, qui est non-voyant et qui est en apprentissage du tennis en ce moment, parce qu'il y avait une organisation pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. Et j'ai souvent cette pensée, moi qui viens de Mont-Laurier, de me dire, mais s'il était à Mont-Laurier, comment il pourrait apprendre ce nouveau sport-là, cette nouvelle activité-là? Il y a aussi, les régions loignées, on en a parlé, vous et moi, Marc Saint-Onge, mais aussi ces personnes, ces associations-là qui sèment la graine.
Tu as les associations, tu as les personnes elles-mêmes et, vous l'avez bien dit, il y a des programmes qui existent, entre autres le programme d'accompagnement, qui fait en sorte qu'on va pouvoir se centrer sur les attentes de la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce à quoi elle aspire? Peut-être que ça peut nous paraître loufoque, certains projets, mais quand on prend le temps de l'accompagner et de regarder quels sont les accommodements possibles, parfois on trouve des ingéniosités tellement grandes. Vous savez, il y a une région avec laquelle je travaille. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, ils appellent ça, je vais juste vous donner l'expression, un citoyen accompagnateur. Mm-hmm. Donc, dans cette petite municipalité-là, il y a un tag, hein, une espèce de macaron qu'on offre, et que si la personne handicapée veut faire quelque chose, elle sait que cette personne-là, elle est ouverte à lui donner des conseils, à l'aider. Mm-hmm. Ouais, il y a des aspects novateurs comme ça, qui sont des pratiques qu'on pourrait qualifier comme d'inspirantes, qui deviennent drôlement intéressantes pour soutenir une pratique dans une région plus éloignée, par exemple.
Ce sont ce que vous appelez les pratiques inspirantes, je pense, Marc Saint-Onge.
C'est un exemple de pratique qui pourrait être inspirante, oui.
Oui. Maintenant, dans les missions de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, j'imagine qu'il y a beaucoup la sensibilisation aux organismes, notamment dans des lieux, dans des régions où l'offre n'est peut-être pas si importante, de les amener à créer des loisirs, des activités pour des personnes qui vivent avec différentes limitations.
Bien sûr que ce qu'on vise, c'est faire la promotion de l'accessibilité aux loisirs, mais on vise aussi beaucoup le développement, vous l'avez bien traduit. Donc, ce que ça entend, c'est que moi, je travaille avec l'ensemble des représentants régionaux qui, eux, travaillent avec l'ensemble des organisations locales pour qu'on soit capable de répondre aux réalités régionales. Hein? Une région qui a une moins forte densité populationnelle, c'est sûr qu'on peut même moins mettre en place une équipe de fauteuils roulants, de personnes qui jouent basket en fauteuil roulant, par exemple. Un très vaste territoire, ça peut être plus restreignant. Donc, on trouve des solutions alternatives. On trouve des solutions dans lesquelles il y a différentes clientèles qui peuvent vivre des activités et qui deviennent drôlement intéressantes. Oui. Il y a des aspects novateurs qui se passent à peu près partout au Québec, pas juste au Québec, mais notamment au Québec, et qui deviennent drôlement riches et de voir toute l'ingéniosité des gens qui sont là.
Donc, ce que j'entends, Marc Saint-Onge, c'est qu'il y a de l'ouverture auprès des organismes avec lesquels vous travaillez.
Ah oui, énormément d'ouverture, je vous dirais, avec les gens avec lesquels je travaille. C'est d'abord et avant tout une centration sur la personne et c'est une passion de pouvoir les accompagner dans la réalisation parfois de leurs rêves, de leurs ambitions, de leurs désirs. C'est des gens qui, les personnes handicapées, ce sont des gens qui veulent vivre comme tout le monde.
Oui.
Ce sont des gens qui veulent participer à la vie économique, qui veulent participer à la vie sociale. Ce sont des gens qui veulent être, non pas comme dépendants du système, mais être un citoyen actif à part entière.
Oui.
Et l'ensemble des régions avec lesquelles je travaille convergent tous vers de tels objectifs. Oui.
Est-ce que les personnes qui participent à ces activités de loisirs mis de l'avant par l'association sont dans des groupes où tous les participants sont en situation de handicap ou parfois il y a aussi cette mixité entre des personnes qui ne vivent pas nécessairement avec un handicap et d'autres qui sont en situation de handicap?
C'est intéressant ce que vous dites. À une certaine période de temps, on cherchait strictement à ce que les personnes vivent avec toutes les autres, dans les activités génériques offertes par la municipalité, tout ça. Et on mettait un peu de côté les activités un peu plus dites ségrégées. Il y a des nuances qu'on apporte beaucoup aujourd'hui, parce que on peut très bien concevoir qu'un groupe de personnes qui ont une déficience intellectuelle apprécie particulièrement leur soirée de danse le vendredi soir parce qu'elles se retrouvent entre elles. Donc, il y a des activités qui se trouvent dans des situations de plus grande mixité, et d'autres qui sont très, très intéressantes, qui se trouvent avec des groupes plus réservés, allant même dans des lieux plus spécialisés aussi. Il faut comprendre la personne sur ce qu'elle vit, sur son expérience, pour nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de préserver de telles activités dans lesquelles il y a du non-mixte. Mais dans la mesure où ce n'est pas que ce qu'on leur propose, il faut qu'elles aient accès aux activités de l'ensemble de la population.
Oui, et j'imagine que dans le cas où il y a cette rencontre-là, il y a de nombreux avantages aussi pour la personne qui ne vit pas en situation de handicap et qui connaît très peu sur la réalité, sur les enjeux, d'être en contact avec des personnes différentes peut amener à plus d'ouverture, également une meilleure compréhension.
Fondamentalement, j'ai fait quelques focus groups et entre autres, j'avais des personnes qui étaient ce que j'appelle des moldus, dans le bon jargon, c'est-à-dire des personnes non handicapées.
Oui.
Et j'avais aussi des personnes handicapées et dans le focus group, les personnes handicapées nous disaient, moi, d'avoir accès, par exemple, à la piscine qui est adaptée en fonction de mes besoins, ça me permet d'être autonome, même si j'ai besoin d'un accompagnateur pour mettre mon maillot de bain, par exemple, parce que j'ai plus de membres inférieure ni supérieure, j'ai besoin de quelqu'un. Mais quand j'arrive dans l'eau, je peux me baigner, je peux être seul, mon accompagnateur peut faire. Donc, cette personne-là me disait tous les bénéfices qu'elle en procure de pouvoir partager des lieux communs avec tout le monde, puis de pouvoir échanger. Mais les gens des moldus, les gens de la communauté me disaient, moi, de voir qu'une personne qui n'a pas de membre supérieur ni inférieur peut être aussi autonome dans des ressources comme on les a, pour moi, ça change complètement le regard que j'ai sur cette personne-là et ça me les amène à considérer cette personne-là davantage comme des citoyens à part entière.
Ouais.
C'est fabuleux.
Ouais.
C'est fabuleux par des petits gestes concrets ou dans lesquels on n'a même pas besoin de parler, simplement que la personne handicapée puisse être heureuse dans ce qu'elle vit. C'est fantastique.
Oui. Ça apporte beaucoup de richesse dans la vie, dans un parcours de vie et dans les rencontres, les dialogues que l'on peut faire. Et ça se passe dans le plaisir, parce que le loisir est fait pour le plaisir. Et si ça peut engendrer d'autres bienfaits, bien sûr, c'est le bienvenu. Sur le site de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes handicapées, aqlph.qc.ca. Il y a une liste d'activités, d'organismes, d'associations partout au Québec, Marc-Saint-Onge, pour promouvoir le loisir pour des personnes avec différentes limitations. Si des gens nous écoutent en ce moment, qu'ils ont envie de démarrer une ligue, un cours de... ils vous appellent et on peut discuter pour créer de meilleures ressources pour ces personnes?
En fait, j'ai une expression qui dit « il ne faut pas réinventer le fauteuil à quatre roues ». Ce que ça veut simplement dire, c'est que parfois, il y a de nombreuses activités qui existent et qui ne sont pas suffisamment connues.
Mm-hmm.
Donc, dans un premier temps, regardons ce qui existe. Et dans un deuxième temps, si ça n'existe pas, regardons quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les forces, les facilitateurs qui vont faire en sorte qu'on sera capable de le mettre en place. Mais nous, on peut orienter, on peut supporter, on peut diriger, on peut contribuer très certainement à de nombreux besoins, oui.
Marc-Saint-Onge, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
C'est un plaisir réciproque, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Marc-Saint-Onge, le directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, qui s'entretenait avec Marianne Paquette dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé ». Les paractualités du 9 janvier maintenant. En 2013, ce garçon a créé la fondation Le Pont vers l'autonomie dans le but d'acheter un bras robotisé à son frère atteint de la dystrophie musculaire. Et depuis, Samuel Florent Beauchemin a remis 10 bras robotisés à des personnes vivant avec des incapacités physiques sévères. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui. On le réécoute. La première fois que j'ai entendu parler de ce garçon, je me suis dit, il faut à tout prix que nous l'invitions à l'émission Les Paractualités sur Canal M. On dit souvent que les jeunes n'ont pas d'idées et qu'ils ne savent pas quoi bâtir dans leur vie. Eh bien, Samuel Florent Beauchemin, lui, il a trouvé et j'ai la chance de lui parler aujourd'hui par téléphone. Bonjour, Samuel.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très, très bien. Et vous-même?
Très bien, merci.
Bon, Samuel, vous êtes le président de la fondation Le Pont vers l'autonomie. Et vous avez 26 ans, hein, si je ne m'abuse, et la mission de cette fondation, si je ne me trompe pas, c'est de donner des bras robotisés à des gens qui en ont besoin.
C'est... Exactement. Mais en fait, notre mission, c'est de permettre une plus grande autonomie, liberté au quotidien pour les personnes qui vivent avec des incapacités motrices sévères. Mm-hmm. Donc, présentement, c'est principalement le bras robotisé Jaco qui est fabriqué par Kinova que nous, on offre aux personnes qui en ont besoin. Mais on n'est pas fermé pour le futur là, à développer de nouveaux programmes.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon de 26 ans, parce qu'à 26 ans, hein, on s'entend qu'on est encore très jeune, qu'est-ce qui fait que, qu'un jeune comme vous consacre la majeure partie de son temps à cette fondation-là, Samuel Fleuron Beauchemin?
Ça a commencé tout jeune, en fait, mais j'ai un frère qui a été touché par la dystrophie musculaire de Duchenne, donc... Okay. C'est ça, mon frère a perdu son autonomie là, graduellement tout au long de sa vie. Donc, nous, on était chanceux à la maison. Ben, malgré notre malchance, on a perdu notre papa, mais on avait des fonds pour que mon frère ne manque jamais de rien.
De rien. Bon.
Ouais, donc, puis quand le bras robotisé, mon frère est venu de l'hôpital, puis il a dit hey, j'ai vu ça aujourd'hui, tout ça. J'ai fait waouh, t'en achètes un. Donc, c'est là que l'idée de la fondation est venue. Puis, finalement, plus tard, c'est devenu une passion pour la philanthropie et pour le don de soi. Donc,
aider pas seulement son frère, mais les autres aussi.
Exactement.
Sauf que vous avez certainement eu besoin d'aide extérieure, Florent. Samuel,
oui.
Pardon.
Oui,
excusez-moi.
Oui, oui. En fait, on a eu beaucoup d'aide au niveau des donateurs de la région, des mentors, des bénévoles. Puis, là, on est dans un petit peu partout au Québec. On a... On a remis 10 bras robotisés un petit peu partout au Québec depuis nos tout débuts.
Et vous visez combien en ce moment-là, par exemple pour 2017?
Bien là, on vise 10 autres personnes pour la prochaine année. Puis, donc voilà, on a comme 20 personnes en attente d'un bras robotisé, donc voilà.
Et puis, vous avez même été jusqu'à étudier, hein, je crois, en cours en gestion philanthropique?
Oui, c'est ça. Donc, à l'Université de Montréal en gestion philanthropique. Donc, apprendre les cadres, les normes, comment ramasser de l'argent, comment être efficace, comment bien redistribuer, puis comment bien gérer une fondation. Oui.
Comment il marche, ce bras robotisé-là, et qu'est-ce qu'il permet de faire aux personnes handicapées?
En fait, le bras robotisé s'installe directement sur le fauteuil roulant des personnes qui en ont besoin, qui est contrôlé par le même contrôle que la personne contrôle son fauteuil roulant. Donc, ça peut être par la tête, par la bouche, par le souffle, par les mains, par les doigts. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est pas une prothèse, faut être bien clair, là.
D'accord.
Donc, c'est un bras robotique qui est fixé à la base du fauteuil roulant. Et puis, donc, c'est super simple d'utilisation. Là. Soit habituellement, là, ça prend 2-3 heures, puis les gens sont... En dedans de 2 heures, sont capables de boire seuls, là. Donc,
ah oui?
Oui.
Ah, c'est quand même fantastique. Et ça coûte combien? S'il fallait que les gens payent pour l'obtenir, ça leur coûterait combien, un bras comme ça?
Bien, directement auprès de la compagnie, directement, c'est 40 quelques mille dollars.
Ouf.
Nous, avec la fondation, on ramasse 50 000 dollars par bras robotisé pour... être en mesure d'assurer le service, la mise en fonction, la formation, et puis subvenir aussi aux besoins de la fondation là, en général.
Donc, j'imagine que vous avez toujours besoin d'argent,
hein,
Samuel. Comment on fait pour...
bénévole.
Bon, oui, alors comment on fait, par exemple, si on veut être bénévole, comment on fait si on veut vous donner de l'argent, on passe par où?
On peut passer directement par le site Internet qui est soyezlepont.com.
Soyezlepont.com.
Oui, soyezlepont.com, on peut faire un don en ligne. Si jamais il y en a qui voudraient être bénévoles ou qui aimeraient, je sais qu'on est en train de mettre en place le formulaire de bénévoles, je sais qu'il a été modifié, je crois qu'il n'est pas à jour. Donc, on peut communiquer directement à la fondation avec Google, on peut nous trouver très facilement. Donc, soit on nous appelle, soit on m'envoie un courriel à Samuel à Commercial Fondation.
Fondation.com. Excusez-moi, je vous ai coupé. Samuel...
À Commercial Fondation.
Oui.
PVA.com. Donc, comme pontvertautonomie.com.
D'accord, PVA.com. Parfait. Dites-moi, vous êtes situé où?
Samuel.
Nous, on est situés à Victoriaville.
Notre oui.
C'est Victoriaville, mais on a plusieurs campagnes. On est un petit peu partout, là, Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, Montréal, Repentigny. Oui. On va loin.
Et vous avez reçu un prix hein, en 2016 pour récompenser tout ça?
J'en ai reçu deux, j'ai été chanceux.
Bravo!
J'ai reçu le prix coup de cœur des têtes d'affiche à Trois-Rivières, puis j'ai reçu l'hommage, le prix Excellence Jeunesse en philanthropie de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Donc, merci.
Eh bien, merci à vous, Samuel Fleurant-Beauchemin. Comme je le dis toujours, ce sont souvent les individus qui font avancer les choses, peut-être plus que les organisations étatiques. Alors, bravo à votre fondation, longue vie, et puissiez-vous en aider comme ça beaucoup plus.
Oui, c'est juste un début, je suis tout jeune encore.
Eh bien, bravo. Merci. Alors, au plaisir de vous reparler. Et puis, bonne chance et bonne année et bon succès en 2017.
Bien, vraiment, tous mes voeux et belle année à vous.
Merci, au revoir.
Bonne journée, bye.
Toujours dans les paractualités, cette semaine, il y avait 4 papiers qui nous semblaient intéressants à vous faire entendre. Centralisation des services pour enfants autistes au Nouveau-Brunswick à Fredericton, ça inquiète beaucoup de parents. Et puis 85 jeunes Canadiens reçoivent une bourse d'études de l'association Horatio Alger. Oh, les trottoirs et les rues sont glacés, ou du moins étaient glacés en Colombie-Britannique et des personnes âgées et handicapées se sont inquiétées. Et enfin, 3744 km de marche pour le manque de soutien aux aidants naturels. Oui, ils s'apprêtent à le faire. Actualité nationale, la centralisation des services pour enfants autistes au Nouveau-Brunswick inquiète des parents. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé cette semaine qu'il remettrait la responsabilité de la gestion du programme d'intervention auprès des enfants autistes entre les mains d'un centre d'intervention spécialisé à Fredericton. Des parents craignent que ces changements ne bouleversent grandement le quotidien des enfants. Depuis 10 ans, le programme d'intervention auprès de ces enfants est géré par 6 entreprises indépendantes. Le ministère de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance de la province estime pour sa part que cela permettra d'offrir une version améliorée du programme. C'est un gros choc, indique Mélanie Haché, la mère d'un enfant autiste. Celle-ci craint aussi que la transition soit difficile pour les gens qui travaillaient dans ces 6 agences. Denise Pelletier, qui a le contrat de gérer le programme, croit pour sa part que ce remaniement aura des conséquences positives. Je pense que les familles vont être contentes des changements, a indiqué la directrice générale du Centre d'intervention en autisme de Fredericton. Madame Pelletier a tenu à se faire rassurante pour les parents. La réorganisation de l'administration du programme fait en sorte que les gens qui offrent des services aux enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme perdent temporairement leur emploi et doivent poser leur candidature à nouveau. Si on peut les assigner aux mêmes équipes, on va les assigner aux mêmes équipes. On va faire notre possible pour s'assurer que ce soit le plus positif pour tout le monde, pour les employés et surtout pour les familles et les clients, a répondu la directrice du programme. Actualité nationale, 85 jeunes Canadiens reçoivent une bourse d'études de l'association Horatio Alger. L'Horatio Alger du Canada a révélé le 10 janvier le nom de ces 85 étudiants qui bénéficieront d'une bourse d'études post-secondaires. Les gagnants incluent 5 récipiendaires de la Bourse nationale d'entrepreneuriat Horatio Alger d'une valeur de 10 000 $, lesquels ont démontré une volonté et une capacité d'être entrepreneur dans un domaine en particulier, ainsi que 80 bourses canadiennes Horatio Alger d'une valeur de 5 000 $ chacune. Chaque année, ces bourses sont attribuées à des étudiants du secondaire et du cégep dans le besoin qui ont su surmonter l'adversité tout en démontrant de la force de caractère, de bons résultats académiques, d'un engagement à poursuivre des études post-secondaires et le désir de contribuer à la société. Les bourses d'études peuvent être utilisées pour une formation professionnelle post-secondaire ou pour des études universitaires. Depuis 2012, près de 2 millions de dollars de bourses ont été accordés à 387 jeunes Canadiens méritants. L'association a reçu des milliers d'applications de partout au pays, confirmant ainsi le besoin de bourses d'études académiques. Le revenu familial annuel moyen des récipiendaires est de 22 000 $. Les difficultés rencontrées par les candidats peuvent comprendre le décès d'un d'un parent ou d'un tuteur, l'incarcération d'un parent ou d'un tuteur, le placement en famille d'accueil, diverses formes de violence ou encore des handicaps physiques ou mentaux. Malgré ces difficultés, les récipiendaires obtiennent d'excellents résultats académiques et certains parviennent même à trouver du temps pour travailler pendant l'année scolaire. Et oui, en Ouest, hein, on est un petit peu moins habitué que chez nous. La plupart des résidents à Richmond ne doivent pas déneiger devant chez eux. Alors du coup, il y a des résidents frustrés à Richmond, en Colombie-Britannique, qui veulent que la ville revoie son règlement sur les trottoirs enneigés. Actuellement, rien n'oblige les propriétaires de maisons unifamiliales à déneiger devant chez eux. Le résident Arnold Cheng, qui se déplace en fauteuil roulant, a indiqué mercredi que la majorité de ses voisins n'ont pas dégagé la portion de trottoir devant leur propriété. Il souligne qu'après les chutes de neige et le froid persistant des dernières semaines, circuler sur les trottoirs est devenu impossible pour les personnes à mobilité réduite. C'est comme si la neige les emprisonnait à l'intérieur, soutient-il. Monsieur Cheng dit qu'il doit conduire à Vancouver pour faire ses courses puisque ça prend moins de temps que d'essayer de circuler sur les trottoirs à Richmond. D'autres citoyens ont exprimé leur frustration sur Twitter. La résidente de 22 ans, Ali Lewis, a demandé à la ville comment elle peut laisser les trottoirs aussi glacés. Elle a ajouté qu'elle-même est tombée et qu'elle s'inquiète pour les personnes en fauteuil roulant et les aînés. Le porte-parole de la ville de Richmond, Ted Townsend, a affirmé mercredi que la réglementation sera révisée. Nous examinons toujours les réglementations pour voir si des améliorations sont requises. Nous évaluerons cette réglementation, mais il est trop tôt pour dire s'il y aura des changements, a-t-il précisé. M. Townsend a expliqué que la réglementation n'oblige pas que les propriétaires de résidences, n'oblige que les propriétaires de résidences commerciales et multifamiliales à déneiger. Mais il souligne que les propriétaires de maisons unifamiliales sont exemptés de la loi parce que plusieurs d'entre eux, en particulier les personnes âgées, n'ont pas la capacité physique ou financière de dégager les trottoirs. Et puis, rapidement, l'ultime défi de Jonathan Collin, 3744 kilomètres de marche pour soutenir sa femme atteinte de cancer et dénoncer le manque de soutien que reçoivent les aidants naturels. Jonathan Collin s'est donné un ultime défi au mois de juin prochain. Il entamera la longue marche qui sépare Bromont de Banff en Alberta. L'ultime défi 2017, c'est un cri que je lance au gouvernement parce que les aidants naturels n'ont pas d'aide. On n'a pas de soutien, de dire Monsieur Jonathan Collin. Il y a des dizaines de personnes qui m'ont écrit et qui vivent la même chose que nous. On dit que les aidants naturels font économiser des millions de dollars, mais on est laissé totalement à nous-mêmes. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M. C'est la deuxième partie de l'émission Le National. On se familiarise maintenant avec la dystrophie musculaire, avec le papa d'un enfant qui est atteint de cette maladie. Et ce papa organise depuis 5 ans une activité pour financer la recherche au Canada. C'était dans le cadre de l'émission Accès libre. Il s'appelle Jean-Philippe Morand. Et avec M. Morand, on discute des défis du quotidien avec un enfant atteint de la dystrophie musculaire ainsi que de la campagne Dystropin, qui a pour objectif, je vous le disais, d'amasser de l'argent pour la recherche au Canada.
Jean-Philippe Morand est père d'un jeune vivant avec la dystrophie musculaire. Il est aussi le dynamique organisateur d'une activité intitulée le Dystro Spin. Bonjour, Monsieur Morand.
Bonjour, Benoît.
Bonjour, merci d'être avec nous. En fait, vous vous êtes engagé avec Dystrophie musculaire Canada parce que la cause vous touche de près. Expliquez-nous un peu mieux ça.
Oui, bien c'est ça. Non, il y a cinq ans, on a appris, ma conjointe et moi, là, que notre plus vieux des garçons, Victor, était atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne. Puis un an après, a germé l'idée d'organiser quelque chose, puisque pour venir en aide, en aide à notre garçon, enfin,
ouais.
pour Vu qu'il n'y a aucun médicament qui existe pour vaincre la dystrophie musculaire, donc à ce moment-là, c'est là qu'on est venu l'idée d'organiser un événement, une levée de fonds pour investir dans la recherche sur la dystrophie musculaire.
Donc, c'est important pour vous de passer à l'action parce qu'il n'y a pas encore de solution à la maladie. Et vous, vous êtes dit, j'aime le vélo, je veux être dynamique, je veux être du côté positif des choses, alors j'organise le DistroSpin, c'est ça?
Oui, exactement. Étant donné que je ne suis pas dans le domaine de la médecine, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas neurologue, loin de là, je travaille en informatique, puis je donne des cours de spinning à temps partiel. Donc, le meilleur moyen pour moi, là, c'était de mettre en place un événement de spinning, puis de l'animer du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est important parce que pour que ce soit propagé, dans le fond, le message, pour que ce soit concret. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'est né l'événement du DistroSpin là, il y a 5 ans.
Donc, c'est une édition qui va bien, mais je reviendrai quand même sur ce que vous vivez tous les jours. En fait, pour que les gens comprennent, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la dystrophie musculaire, ce que vous défendez dans le fond? Vous êtes devenu un ambassadeur de cette cause-là.
Oui, exact. Le but premier là, de l'événement, c'est vraiment de faire parler de la maladie pour que le monde soit conscientisé de cette problématique-là. La dystrophie musculaire, c'est une maladie qui est génétique. Mm-hmm. Qui atrophie tous les muscles du corps, en commençant par les jambes, les bras, puis ça finit avec le cœur, puis le poumon et le cœur, mm-hmm. qui sont tous des muscles. Puis donc c'est pour ça là, que c'est une longue dégénérescence qui atteint l'enfant. Mm-hmm. Présentement, les enfants peuvent prendre, qui atteint principalement les garçons là, pour ce qui est de la dystrophie musculaire, malgré qu'il y a des filles aussi qui sont atteintes. Okay. Puis le seul traitement qu'on peut donner, c'est de la cortisone pour diminuer la souffrance de ces enfants-là. Mais ça reste que c'est des enfants qui souffrent tous les jours là, d'un point de vue musculaire. Là. Comme un peu si nous autres, on faisait lorsqu'on fait un très gros entraînement puis que nos muscles sont fatigués, mais c'est un peu après ce que vit quelqu'un qui est atteint de la dystrophie musculaire.
Et donc, vous, tous les jours, vous devez quand même aider particulièrement votre enfant? Ça ressemble à quoi, votre quotidien?
En fait, lorsqu'on l'a appris, le signal, c'est que l'enfant réussit pas à courir, à sauter comme les autres le font. Donc, on se pose un paquet de questions. On a cherché pendant 2 ans, presque 3 ans de temps, à savoir pourquoi que Victor était pas capable de courir comme ça. Puis, on a fini par avoir le diagnostic. Puis, concrètement, ben c'est ça. L'enfant, au début, il a de la misère à courir, de la misère à sauter, de la misère à faire un peu de vélo. Puis, c'est une dégénérescence. Donc, Victor, là, ça fait 5 ans. Il est rendu presque à 11 ans. Il n'est plus capable de marcher longtemps. Il n'est pas capable de monter les marches. Victor va perdre l'habileté de faire du vélo. Probablement, l'été prochain, il sera plus capable de garder l'équilibre, de pousser. Puis dès qu'il y a une mini pente, Victor n'est pas capable de pousser sur les pédales. Donc, on oublie le vélo aussi. Fait qu'imaginez ce que ça représente pour un enfant de 11 ans depuis être capable de faire du vélo. Là. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est des contraintes qui sont physiques, mais Victor est encore capable de marcher à l'intérieur de la maison. Mmh. Chacun des enfants qui atteint de la dystrophie ont des fois un développement qui est différent. Il y en a qui sont la maladie est accélérée à ce moment-là, qui sont déjà en chaise roulante à 100%, mais souvent, ils vont être confinés à leur fauteuil roulant vers l'âge entre 12 et 14 ans. Okay. Ils vont être confinés à leur fauteuil roulant à temps plein.
Mais vous, cette année, avec cette 5e édition du DistroSpin, vous avez tenté quelque chose de particulier, justement pour que votre fils demeure actif.
Bien, dans le fond, moi, ce qui est important pour moi puis et ma conjointe, c'est de prouver à Victor que tout est possible. C'est pas parce qu'on a une maladie, c'est pas parce qu'on a tous nos épreuves, puis nous, notre épreuve, c'est de vivre avec un enfant qui a la dystrophie, puis il y en a d'autres que c'est d'autres maladies ou d'autres situations. Mais c'est vrai que tout est possible. Donc, si Victor veut nous suivre, bien, on a cette possibilité-là. On est allé, on l'a amené avec nous autres en voyage, puis on a acheté une roue tout-terrain pour mettre en avant du fauteuil, pour être capable de le rouler dans les chemins un peu plus comme de gravier, parce qu'avec des petites roues d'un fauteuil roulant, on comprend là, que ça roule très mal.
Mais vous avez transformé le fauteuil en presque bicyclette, au fond, c'est ça?
C'est pas en bicyclette, là. C'est vraiment un genre de runner comme on a pour les plus jeunes enfants, là, avec une roue qui est en avant.
OK.
Qui permet que moi je le pousse puis que de stabiliser une grosse roue dans le fond en avant. Mm-hmm. Cette roue-là a permis, on peut la bloquer. Okay. Puis j'ai commencé, étant sportif, j'avais commencé comme à courir. J'ai commencé à courir avec Victor. Puis là, ben, finalement, on a fait le 42.2 de Ottawa au mois de mai l'année prochaine. Puis on est inscrit là, pour le faire l'année suivante.
Okay.
Puis après cet événement-là, c'est là qu'est venue l'idée d'acheter une vraie chaise roulante de course pour Victor. Mm-hmm. C'est ce que ça nous a permis de faire avec une partie des fonds recueillis au DistroSpin. La cinquième édition du DistroSpin, la chaise, elle est commandée, puis on va la recevoir mi-février.
OK. Donc, cette dernière édition que vous avez faite, pas la toute dernière à vie, parce que vous allez continuer, je comprends bien, mais celle qui s'est tenue en 2016. J'en suis persuadé, vous avez toute l'énergie, on dirait. Donc, en 2016, l'argent en partie servi à acheter ce fauteuil-là pour que votre fils demeure actif, tout en investissant aussi de l'argent dans la recherche de solutions pour la dystrophie musculaire. C'est ce qu'on comprend?
Oui, exact. Cette année, on a ramassé plus de 20 000 $. Donc,
bravo!
On a pris un 8 000 $ pour cette chaise spécialisée-là, là, mm-hmm. Qui va permettre à Victor de nous suivre. Puis cette chaise-là se transforme aussi en un genre de chariot qu'on peut mettre en arrière d'un vélo.
OK.
Donc,
Tu peux participer au DistroSpin, finalement.
Le DistroSpin, c'est du vélo stationnaire.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, Victor, il est toujours là. Il est là pendant les 10 heures de temps.
Ouais.
C'est lui qui distribue les collations. C'est vraiment important pour lui. Avec cet événement-là, on a vraiment créé l'espoir. Puis c'est vrai qu'il existe l'espoir, parce qu'il y en a plein des médicaments qui sont en cours de recherche, qui est en cours pour la dystrophie musculaire.
OK, on attend ça avec attention. D'ailleurs, si les gens veulent suivre la prochaine édition, on peut aller sur le site dystrospin.com, donc dystrospin.com. Donc, c'est tout simple pour l'édition 2017. On espère d'aussi bons résultats.
Ah oui, c'est ça, c'est même plus. Puis aussi le site web et la page Facebook, là, puis qu'on va garder actif là, lorsqu'on va recevoir la chaise, puis l'édition, les autres événements, dans le fond, que je vais faire avec Victor, là, vont probablement se suivre
sur Facebook.
Suivi sur le Facebook de DistroSpin et sur le site web, assurément.
Excellent. Jean-Philippe Morand, bravo pour votre engagement. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Voilà Jean-Philippe Morand qui était en compagnie de Benoît Rassette à l'émission Accès libre. Portrait de famille, en compagnie d'Eugénie Côté-Robitaille, qui est la maman d'une fillette de 3 ans qui vit avec la paralysie cérébrale. Marianne Paquette aborde avec cet invité la problématique de l'arrivée d'un enfant handicapé au sein d'une famille. Même sujet d'ailleurs avec Diane Fournier qu'on va entendre, qui est intervenante en adaptation scolaire et sociale et orthopédagogue à la retraite.
Diane Fournier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Plaisir.
Approchez-vous de votre micro un peu, on ne vous entend pas bien. J'ai envie quand même de souligner d'entrée de jeu la belle coïncidence qui vous unit sans que je le sache. C'est ça la magie de la radio. Diane, vous avez enseigné été orthopédagogue pendant 20 ans à l'école Victor Doré, qui est une enfant qui reçoit, une école qui reçoit des enfants en situation de handicap. Et tout bientôt, Elisabeth va aller à cette école-là.
Effectivement. En fait, elle va rentrer en septembre 2017 à l'école Victor Doré. Donc, j'étais contente de pouvoir rencontrer quelqu'un qui y a travaillé longtemps.
Avec vous, Diane, on avait envie de parler de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça demande d'accueillir un enfant en situation de handicap, parce que vous avez travaillé auprès de familles qui vivent avec des enfants aux besoins particuliers, des enfants différents. Vous êtes aussi la maman d'une grande fille qui a maintenant 33 ans, Isabelle Boisvert, qui est en situation de handicap. Ça bouleverse plein de choses, l'arrivée d'un enfant qui a des besoins particuliers. De quelle façon ça bouleverse l'unité familiale?
Bien, je te dirais que ça peut avoir différentes répercussions. Autant que ça peut souder les liens, comme le soulignait notre j'ai oublié son nom.
Notre maman Eugénie.
Notre maman Eugénie. Ça peut souder les liens dans une famille où déjà il y a des liens affectifs forts. Par contre, ça peut aussi causer des éclatements. Ça peut aussi amener les gens à s'éloigner de nous parce que tout le monde n'est pas prêt émotivement à être près d'une personne qui est différente. Alors, un enfant qui vit des choses difficiles ou qui est différent, les gens vont s'en éloigner. Ils ne sont pas capables d'être près de lui. Ils ne sont pas capables non plus, dans certains cas, d'être près de la maman ou près du papa, qui lui aussi, au niveau affectif, est un peu déboussolé, comme on l'exprimait tantôt. Alors, des fois, c'est où ça s'unit, les gens viennent te réconforter, ou des fois, il y a des gens qui s'éloignent, qui vont complètement disparaître, ou tu vas en avoir d'autres qui vont dire « Je ne sais pas trop quoi faire, mais je voudrais faire de quoi pour toi.
Ouais. »
Et ces gens-là sont précieux, puis il faut...
Les diriger, presque. Mais ça, c'est intéressant. On répond quoi à un proche qui nous dit « Je voudrais être là, mais je ne sais pas comment. »
Ben, c'est de lui dire ben, « Viens, viens, puis on va travailler ensemble. » Lui montrer qu'est-ce que toi, tu fais. Puis lui dire ben, « Regarde, j'aimerais ça que pendant quelques minutes, tu t'occupes de ma petite fille, puis que de mon enfant, puis que pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être prendre un petit break ou je vais peut-être aller faire une petite commission. Si j'ai besoin. » Puis là, travailler avec cette personne-là à la maison, l'amener près de soi. De ne pas la laisser seule. Tu ne peux pas arriver et la laisser seule. Mais lui dire, regarde, puis regarde cet enfant-là. Puis quand c'est, dis-toi dans ta tête qu'au départ, c'est un enfant.
Ouais.
Alors, si tu avais un enfant, qu'est-ce que ça fait un enfant? Ça aime jouer, ça aime s'amuser. C'est sûr que ça a des besoins particuliers. Donc, il faut peut-être apprendre si elle est gavée. C'est peut-être des choses qu'on ne lui demandera pas de faire au début. Mais peu à peu, là, d'amener ces gens-là et dire, bien, viens avec moi, on va aller magasiner avec l'enfant. Tu sais, c'est aller au parc avec l'enfant, aller ensemble faire des choses.
Regarder un livre.
Regarder un livre.
Elisabeth aime les livres.
Oui. Un jeu que l'enfant aime, effectivement, peut aider à ça.
Oui. Eugénie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est arrivé, vous, que des proches vous disent « Je veux être là, je ne sais pas comment, guide-moi. »
Oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Ben, en fait, des fois, on sent un peu un malaise, là, mais moi, justement, quand je vois qu'ils sont prêts à aider puis qu'ils veulent... Je saute dessus.
C'est ça,
et puis, j'explique justement. Moi, je suis très... Ben, peut-être parce que je suis enseignante aussi, là, mais tu sais, je vais expliquer aux personnes comment on peut faire avec elles, puis je les laisse aller aussi voir comment eux font, parce que ce qui est le fun aussi, c'est que c'est différent. Là, la stimulation va être différente d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Puis, oui, c'est ça. Moi, je les amène vers nous, puis je veux qu'ils nous aident.
Ce qui est fort, quand même, dans tout ça, c'est que cet enfant devient un vecteur d'acceptation, d'ouverture. Il devient presque... Il éduque les autres à plus d'ouverture et d'empathie.
Oui. Dans le fond, cet enfant-là, c'est comme... Il nous dit, ben regarde, je suis là, j'existe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Dans le fond, on est ses bras, on est ses mains, Alors donc, ça incite les gens à dire, ben regarde, je peux... Donne-moi la main, tu sais. Donc, c'est un peu ça qu'il nous dit, l'enfant. Puis on devient... Je pense qu'on devient présent, plus présent à l'enfant. On porte plus attention à ses besoins que... Habituellement, un enfant, tu le laisses là, il joue tout seul, il s'amuse. Dans ce cas-là, on sent qu'il a besoin de nous. Donc, ça nous incite à être... Ça nous fait du bien.
Oui.
Dans le fond, on est un petit peu égoïste pour soi. Ça nous fait du bien de s'occuper d'un enfant qui est différent. Ça nous apporte quelque chose que ça paraît pas, là, mais effectivement, ça nous donne... Un petit coup de chaleur au cœur.
Ouais.
En même temps, on sait qu'on aide la maman.
Aussi. Donc, et ça, c'est précieux, la maman, le papa. Tout à l'heure, Diane, Eugénie disait qu'il n'y avait pas... c'était difficile de prévoir l'état d'Élisabeth lorsqu'elle est arrivée, puisque la grossesse s'est très, très bien passée. Donc, ça change un peu le rôle parental. Lorsque l'enfant arrive, on est déboussolé. On se dit, je ne serai pas mère comme je pensais être mère. Et vous avez cette notion, Diane, de dire, ben, parfois, il faut réapprendre à être parent et réapprendre à avoir du plaisir à être parent.
Oui. Je pense qu'au départ, quand on reçoit un enfant que notre enfant est différent, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il s'épanouisse, qu'il grandisse? Puis aussi, souvent, on va nous demander de faire plein de thérapies, plein de choses pour notre enfant.
Ouais.
Puis on devient thérapeute, on devient médecin, on devient infirmière, on devient n'importe quoi.
Secrétaire.
Oui, remplir des papiers, faire des dents, en tout cas, tout ce qu'on veut. Mais on s'oublie là-dedans. On oublie qu'on est une personne. On oublie que ce qui est devant nous, ce petit être-là, c'est un enfant. Et le fait d'oublier ça, ça nous éloigne. Alors, nous, on devient un fonctionnaire, en quelque sorte. Alors, mais ce qui est important, je pense qu'avec quand on a un enfant différent, c'est que lui, il a besoin d'apprendre et l'enfant apprend par le jeu. Alors, si on veut jouer avec l'enfant, nous, il faut être capable de jouer. Et c'est pour ça que je dis, ben, il faut, la première chose qu'il faut, quand on a un enfant, de toute façon, n'importe quel enfant, mais un enfant différent, c'est plus encore important, c'est que nous, on réapprenne à jouer. Et réapprendre à jouer, ça veut dire regarder qu'est-ce que, quand on était jeune, on aimait faire, dessiner, se mettre les mains dans le gâteau d'anniversaire. Tu sais, l'en mettre partout.
Surtout si on ne peut pas le manger.
C'est ça. Tu ne le manges pas, mais tu l'étends partout. T'en mets dans la figure à maman. T'sais, ça, c'est le jeu que les enfants font normalement. Puis, si, tu sais, de lui donner la chance de vivre ça, lui mettre les pieds dans le gâteau s'il le faut, étant donné qu'il ne peut pas le manger. Mais c'est-à-dire, hey, nous, on a fait ça quand on était bébé, prendre notre morceau de gâteau de fête, puis tu sais, mettre partout dans le visage. Réapprendre à jouer, ça va nous aider. Parce qu'en faisant ça, en jouant avec l'enfant, l'enfant, on va y faire étendre son bras. On va lui faire ouvrir sa main si on fait de la gouache. On va lui apprendre à manipuler les objets, à écouter, tout ça.
Ouais. Dans la cellule familiale, je pense que la première base, c'est le couple.
Oui.
C'est le premier volet de cette cellule-là. Le couple peut se fragiliser à l'arrivée d'un enfant différent. Comment on peut demeurer un couple uni?
Je pense qu'à ce moment-là, la chose qui c'est le plus important, c'est d'être franc, d'être de toujours. Tu peux pas être toujours bien, tu sais. Puis c'est normal. C'est un homme n'a pas la même réaction affective ou le même comportement affectif qu'une femme. Souvent, les femmes vont beaucoup entourer l'enfant, vont prendre beaucoup de responsabilités. Ça devient comme on peut rapprocher des fois une symbiose.
Ouais.
Alors puis le père se sent exclu. Et je pense que c'est important de dire, ben, quand je me sens pas bien, ou je suis fatiguée, de toujours être capable de dire à l'autre comment tu te sens, puis d'accepter que l'autre n'est peut-être pas prêt à faire telle chose, telle chose, telle chose.
Ouais. Le deuil n'est peut-être pas, et ça on pourra en parler avec Alain, à la même place.
Ouais.
En terminant, Diane, ce qui est intéressant dans cette rencontre avec vous, avec Eugénie, c'est que votre fille, elle a 30 ans de plus qu'Élisabeth. Donc, il y a un parcours qui s'est fait, une expérience, une maturité aussi qui s'est installée. Comment évolue le rôle parental avec les années d'un enfant handicapé?
Au départ, c'est sûr qu'au départ, c'est un petit enfant qu'on choisit, qu'on cajole, tout ça. Peu à peu, ça devient un adolescent. Il faut toujours garder présent à la tête que même quel que soit l'état psychologique d'un enfant, au niveau physique, le développement se fait, même chez les enfants polyhandicapés. Alors, t'sais, l'adolescence est une adolescence. Il y a des hormones qui rentrent en jeu, qui vont agir, puis qui vont faire. Il peut devenir agressif, il peut devenir.
Il va développer,
impatient, ouais. Tout ça, tu vas vivre ça. Il va devenir aussi un jour un adulte. Et ça, c'est la partie un peu plus difficile parce que être un adulte, ça veut dire que toi, tu es face à un garçon, une fille, tu rentres dans son intimité parce que tu as les soins de base à donner. Et ça devient des fois un peu. Ça fait un petit peu mal, c'est un petit peu gênant. Puis on a toujours aussi. Peu à peu, avec le temps, à la tête que nous, on vieillit et qu'on n'est pas toujours. Ben oui. Puis des fois, on est obligé de se dire, ben, un jour, je vais être obligé de le placer ou de remettre mon enfant entre les mains de quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Et un jour, on ne sait plus là. Et ça, c'est les parties un peu plus difficiles que le questionnement qu'on se fait tout le temps. Mais de profiter de l'instant présent, je
trouve ouais, ça c'est la force d'Eugénie. Diane, merci beaucoup. Diane Fournier, vous êtes intervenante en adaptation scolaire et sociale, orthopédagogue pendant 20 ans auprès d'enfants polyhandicapés. Et salutations à votre fille Isabelle, merci. Qui a 33 ans maintenant, qui vit aussi en situation de handicap. Merci Diane, ça a été une très, très belle rencontre.
Merci, ça me fait plaisir.
quand la vie est par voir si ton cœur battra d'amour encore. Y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je vais t'amener.
Et deux autres sujets d'actualité nationale, si vous le voulez bien, pour terminer ce national du 13 janvier. D'abord, l'Ontario qui aide à planifier de nouveaux cadres de vie inclusifs pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Et puis un sujet très intéressant qui nous arrive de Belgique, où de plus en plus on développe le braille numérique. L'Ontario aide à planifier, nous sommes bien sûr passés en actualité nationale, donc l'Ontario qui aide à planifier de nouveaux cadres de vie inclusifs au sein desquels les personnes de diverses aptitudes peuvent rester en contact avec leurs familles, amis, voisins et communautés. La province accorde un financement à un groupe de 10 organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle appelé Intentional Community Consortium, l'ICC, pour élaborer une stratégie de logement inclusive et communautaire destinée aux adultes ayant une déficience intellectuelle, l'ICC, qui repose sur la vision de la prestation d'options de logement dans des collectivités de tout l'Ontario grâce à l'établissement de partenariats collaboratifs. Investir dans la conception d'options de logement innovantes et inclusives pour les personnes ayant une déficience intellectuelle fait partie de notre plan visant à créer des emplois, à stimuler notre économie et à améliorer la vie quotidienne de notre population. La docteure Elena Jacek, ministre des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, a dit ceci: « Nous savons qu'il n'existe pas une seule solution en matière de logement pouvant convenir à tous les adultes ayant une déficience intellectuelle. » Il s'agit d'établir des partenariats créatifs permettant de concevoir des options de logement novatrices qui satisfont aux besoins singuliers de toute une série de personnes. L'annonce faite aujourd'hui nous aidera à poursuivre nos travaux afin de faire face à la demande croissante de logements accessibles avec services de soutien destinés aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Par actualité internationale maintenant, la Ligue Braille, nous sommes en Belgique, propose à ses lecteurs aveugles et malvoyants des ouvrages en braille numérique via sa bibliothèque en ligne, telle fait savoir mercredi à l'occasion de la Journée mondiale du braille. Malgré sa difficulté d'apprentissage, il reste un système d'écriture encore inégalé et universel. Le braille numérique va permettre aux personnes malvoyantes et aveugles d'avoir, à l'instar d'une liseuse, 3 ou 4 livres en même temps sur un petit format. En Belgique, les personnes déficientes font face à la famine du livre. Elles n'ont accès qu'à 5% des livres et brochures du marché. Notre souhait, c'est d'avoir un beau catalogue pour compenser cette famine. Les tablettes permettant de lire le braille numérique sont toujours à l'état de prototype, mais la logique ne change pas. Vous avez un système d'exploitation en dessous, la barrette braille, donc la barre munie de picots mobiles qui permet de transcrire en braille et en instantané ce qui s'affiche sur un écran. Un système de lecteur qui va permettre une restitution en vocal et en braille, ainsi qu'à l'écran. Et puis, pour l'occasion de la journée du braille, sachez qu'en Belgique, à Bruxelles, le mannequin Peace était déguisé en écolier malvoyant, accompagné de son chien guide. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission Le National. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi ou peut-être réécouté, parce que je vous rappelle que cette émission-là vous permet justement d'entendre des segments que vous avez peut-être appréciés dans notre programmation régulière. Alors, c'était Clotilde Seille qui remercie son équipe, Louise Vien, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté et Martin Forgue. Voilà, pardon. Alors, passez une très belle semaine. Personnellement, je vous retrouve lundi matin pour les Paractualités à 11h30.